Alléluia. Oh, merci. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors, on continue vraiment de regarder la parole de Dieu, toutes les avenues, tous les chemins par lesquels on peut prendre, que Dieu nous démontre. Amen. C'est comme si à chaque avenue, c'est comme si il y a une route nouvelle qu'on peut prendre qui nous amène toujours à la guérison. Amen. Gloire à Dieu. On avait terminé la semaine passée avec la prière en accord que le grand Je suis est au milieu de nous, que quand deux personnes s'accordent pour demander une chose quelconque à ça. Alors, si le quelconque, c'est la guérison, et puis c'est ça qu'on veut lui demander, bien, si on est deux vraiment en accord, le grand Je suis est au milieu de nous, puis tout ce qu'on demande arrive. Amen. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Alors, comment pourrait-il dire non, je ne veux pas vous guérir si nous autres, on a choisi que c'était la chose quelconque qu'on voulait lui demander? Amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, on va regarder une avenue vraiment spéciale et c'est à propos des offrandes. Amen. Et puis, le John Osteen, qui est le père de Joel Osteen, on vend un livre dans la bibliothèque à propos de Joel Osteen, un enseignement qui apporte d'être vraiment positif. Amen. Et puis, Joel Osteen a 35 000 personnes dans son église. Ça fait que... Mais papa, il est venu au monde avant lui aussi. Papa des cieux, puis son père aussi, qui a commencé une fondation tellement solide, cet homme-là, John Osteen. Et il y a une chose qui s'est déjà passée dans son église, et je sais vraiment que quand Dieu fait une démonstration spectaculaire de quelque chose, c'est parce que Dieu veut qu'on comprenne une vérité. Amen. Alors, ce qui est arrivé de spectaculaire dans son église, à un moment donné, c'est un dimanche matin, c'est un homme qui coulait beaucoup avec l'Esprit de Dieu, et puis un dimanche matin, après avoir pris l'offrande, le Seigneur dit au monde que tu vas en prendre une deuxième, de préparer les offrandes. Fait qu'il a dit aux gens, ce matin, on va agir différemment. Puis il enseignait sur donner, recevoir. Puis il dit, on va prendre une deuxième offrande. Après en avoir pris une deuxième, le Seigneur dit, t'en prends une troisième. Wow! Ça fait qu'il dit, Seigneur, le Seigneur veut bouger vraiment différemment ce matin. On va en prendre une troisième. Après la troisième, le Seigneur dit, tu n'en prends une quatrième. Ouh! Il dit, là, ça va commencer à gigoter, puis c'est vrai. Alors, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il dit, le Seigneur veut qu'on reprenne une quatrième offrande. Rendu à la sixième offrande, parce que le Seigneur n'arrêtait pas, le John Osteen a dit, si vous voulez laisser vos chéquiers sortis, puis vos portefeuilles ouverts, il dit, Dieu veut qu'on prenne une septième offrande. Mais au moment où ils ont pris la septième offrande, il y avait une personne en chaise roulante qui s'est levée debout instantanément. Il y avait une autre personne qui a crié, « Je suis guéri, je suis guéri. » Une autre personne, les guérisons se sont mises à s'installer grandiosement dans l'Église ce dimanche-là. Amen. Alors le Seigneur il dit, « Je veux que le monde comprenne que la guérison est très attachée à l'argent. » Wouhou! Alors, Dieu il a pas fait ça tous les dimanches, là. Il a pas dit, bon, ben dimanche prochain, on va prendre sept offrandes encore. Puis là, sortir une nouvelle doctrine, qu'après sept offrandes, le monde sont guéris. C'est pas ça l'affaire. Vous comprenez? Quand Dieu, le Seigneur veut que je prenne un petit chemin ce matin, là. C'est ça qui est le problème avec l'homme. C'est que l'homme veut mettre les actions de Dieu ou les démonstrations de Dieu dans un format. Et c'est là qu'il sort des mauvaises doctrines. Puis que là, après ça, il y a des gens qui partent avec ça, puis qui disent, tu savais-tu que Dieu guérit après sept offrandes? Puis le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. On sait que c'est le chiffre de Dieu, pareil. Mais là, le monde met l'emphase que ça prend 7 offrandes. Puis là, s'ils voient quelqu'un de malade, ils disent, peut-être que Dieu veut que tu fasses 7 offrandes. Puis là, le monde part sur une doctrine qui est fausse. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? La doctrine qu'ils veulent former, elle est fausse. la vérité que Dieu voulait que les gens voient au travers de cela, c'était que attaché bien des fois à la guérison, c'est l'argent. Amen. Puis Dieu, ce qu'il voulait ce matin-là, c'est que le monde passe par-dessus le... Ah ben lui, un matin, puis, Dieu voulait dire, « Hey, moi j'ai toujours entendu dire que si Dieu il a la main sur ton portefeuille, il va avoir la main sur tout le reste de ta vie. » Parce que c'est la chose la plus difficile à sortir de la poche. Si vous avez remarqué, ils prennent la poche la plus serrée en arrière, puis ils la mettent là, là. Des fois, je dis à mon mari, « T'as pas peur toi, de te promener toujours avec ton portefeuille en arrière? » Je sais pas, il dit, « Faites-en pas. Si quelqu'un touche à ça, moi le savoir. » C'est serré ici. Pourquoi? Parce que, et c'est, on va aller au travers de la parole de Dieu, OK? Parce que je veux pas, je ne veux jamais dire une vérité sans vous le prouver dans la parole de Dieu. Premièrement, on va aller dans Malachie. Vous savez, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, pas dur à trouver. Amen. Juste avant d'arriver au Nouveau. Puis tout le livre de Malachie au complet, c'est Dieu qui parle puis qui démontre comment le monde n'offre plus à Dieu leur meilleur. Puis comment le monde a volé Dieu. Tout le chapitre au complet, tout le livre au complet de Malachie. Comme exemple, chapitre 1, verset 6, Dieu dit, « Un fils honore son père, puis un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Puis si je suis le maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi avons-nous profané? Il dit, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Ce qu'il veut dire par là, c'est, oh, ça, c'est pas vraiment important, là, la table de l'Éternel, quand même qu'on lui a fait une affaire ou deux, là, c'est pas grave, là, quand même je lui donne pas mon meilleur. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Voyez-vous, tout le long, tout le chapitre 1, 2 et 3, Dieu se plaint vraiment du genre d'offrande que le monde lui font. Il dit, vous m'offrez une bête qui est aveugle. C'est bien sûr, vous ne voulez plus l'avoir dans votre troupeau. Vous m'offrez ce que vous aimez le moins. Vous ne m'offrez pas le meilleur. Et il dit, offre-la donc à ton gouverneur, il va-tu te trouver drôle, il va-tu être content de ce que tu fais? Tu m'en offres une qui est infirme. Pour qui tu me prends? Si je suis vraiment ton père, où est l'honneur qui me vient? Si je suis vraiment ton maître, où est la crainte? En voulant dire, tu crains plus dans le naturel ton maître que tu peux me craindre, moi, l'Éternel. Alors, tout, vous lirez à un moment donné, Malachie 1, 2 et 3, et vraiment, il parle vraiment comment les gens ne lui donnent pas le meilleur. Et après ça, il en vient même jusqu'au dîme. Il dit au verset 8 du chapitre 3, il dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? » Mais le mot « trompe », c'est vraiment « voler ». Si on irait vraiment dans l'hébreu, c'est plus « est-ce que le monde vole Dieu? » Il dit, « Un homme vole-t-il Dieu? » Puis vous dites, « En quoi m'avez-vous trompé ou en quoi m'avez-vous volé? » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? » Il dit, « Je vais vous le dire, c'est dans vos dîmes puis vos offrandes. » Il dit, « Vous êtes frappés de la malédiction et vous me volez, vous me trompez, la nation toute entière. » Puis là, c'est là qu'il dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. » Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, puis vous verrez si je rouvre pas les écluses des cieux pour répandre la bénédiction en abondance. Pour vous, je suis prête à menacer celui qui dévore. Dieu, il est prêt à le menacer. Il dit, hey, don't touch. Touche pas à ça. Cette personne-là m'honore. Amen. Il dit, il détruira plus les fruits de la terre, puis la vigne ne sera plus stérile et tout cela. Anyway. vous lirez 1, 2, 3, juste pour comprendre comment Dieu veut le meilleur, OK? Mais je veux qu'on aille au chapitre 4. Parce qu'à un moment donné, à la fin du chapitre 3 même, ça dit qu'un livre a été ouvert et puis que Dieu a été rempli de compassion, puis Dieu il a dit, il va y avoir maintenant une différence entre le juste et le méchant. Ça, c'est 3:18. Vous verrez de nouveau une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il va y avoir une différence. Amen. On devrait même voir une différence, nous autres même, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Après ça, il dit, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, car voici le jour vient ardent comme une fournaise, où tous les hautains puis tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel de l'armée, des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez son nom, il dit, pour vous autres là, qui vraiment marchez en révérence puis faites les choses comme elles doivent être faites. Vous savez, c'est toute une lettre que Malachie a écrite, puis toutes les plaintes de Dieu à propos des offrandes et toutes ces choses-là. Mais il finit par ceux qui craignent vraiment l'Éternel. Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Voyez-vous, il dit, vous pourrez sortir puis sauter comme les veaux d'une étable. Avez-vous déjà vu des veaux sortir au printemps? Les cap fers en l'air? Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable puis vous foulerez le méchant. Et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alors tout le long, il dit, où est l'honneur qui me revient? Si je suis vraiment votre père, si je suis vraiment votre maître, où est l'honneur? Mais il dit, on va voir un jour la différence entre ceux qui m'honorent, entre ceux qui donnent avec amour, entre ceux qui n'ont pas peur de me donner le meilleur. Puis il dit, je vais vous le dire, cette journée-là, et il dit, le soleil de la justice se lèvera sur vous, puis la guérison va être sous ses ailes. Un exemple que je... Dès, pas un, mais dès multiples exemples que j'ai vus. Voyez-vous, ça fait quand même 23 ans que j'enseigne la parole de Dieu. J'ai eu contact avec des gens continuellement. Des gens, des fois, que je voyais malades, mais je savais qu'ils n'honoraient pas Dieu avec le meilleur. Je savais qu'ils ne respectaient pas Dieu. Et puis, je savais qu'il y avait une misère absolue avec ces choses-là. Même, j'ai déjà vu une femme arriver devant moi. Et puis, son mari était malade. Et puis, on allait les visiter continuellement. Puis la femme est arrivée, puis on était assis à table de la cuisine. Puis son mari, lui, il avait il pouvait être mon père, là. C'est pas une jeune. Il avait un amour excessif pour la parole de Dieu que j'amenais. Mais sa femme, en tout cas, elle a passé au renou, et on repasteurait elle et moi, puis elle a tiré comme ça la dîme sur la table. Elle a dit, tiens! Fait que... Donner de cette façon-là, ça ne marche pas. Fait que là, j'ai regardé son mari, j'ai dit, est-ce que c'est un chèque qui est à l'intérieur? Il dit oui. J'ai dit, c'est beau, c'est ça que je fais avec votre chèque. T'sais. J'ai dit, voyez-vous, j'ai dit, prenez-le pour vous acheter des médicaments à place. J'ai dit, il faut le faire avec amour. T'sais. Lui, il voulait, il me regardait en voulant dire, je veux tellement... C'était tellement pas fait en unité. Quand cet homme-là est décédé, parce qu'il voulait mourir, je le comprends d'ailleurs, et puis quand on est allé le voir à l'hôpital, il avait été inconscient pendant un petit bout, puis quand on est arrivé, Pasteur Réal et moi, a dit, il s'est réveillé là, 2-3 fois, mais puis tous ses enfants sont là. Et puis, elle dit, je pense, on y parle, puis il a l'air à comprendre. Je suis juste arrivée à côté de lui, puis j'ai dit son nom. Supposons qu'il s'appelle Monsieur Paulus. Alors, je dis, Monsieur Paulus, c'est Pasteur Chantal. Vous auriez dû voir le sourire de là à là. J'ai dit, vous êtes un témoignage d'amour pour toute votre famille. J'ai dit, c'est tellement évident que vous aimez le Seigneur. J'ai dit, vous ne laissez pas ni la maladie, ni la mort, ni rien vous séparer de l'amour de Dieu. Fait que là, il est alors, amen. J'ai dit, et puis, en tout cas, on a fait son service, Dieu nous a bénis pour ça, puis tout le kit. Mais sa femme a eu la même maladie que son mari, 2 ans après. Sa fille m'a appelée des États-Unis, puis elle a dit, ma mère, elle se lamente comme... Elle crie continuellement, puis elle se lamente continuellement. Elle dit, puis après qu'elle est décédée, elle m'a appelée, elle dit, elle a crié jusqu'à la dernière minute. Mon cœur voulait se fendre en 15. C'est pas Dieu là, qui faisait ces choses-là. Mais c'est des portes que l'homme rouvre bien des fois. C'est vraiment difficile à expliquer, puis c'est un sujet vraiment, vraiment délicat. Mais je l'ai tellement vu. J'ai vu un homme, il aurait pu chacun de nous autres, tous nous acheter, puis nous revendre à crédit, OK, là? De l'argent, ça y sortait par les oreilles. C'est incroyable. Jamais. Il rentrait dans l'église, puis il nous regardait, puis il disait, j'ai fait assez d'argent cette semaine, je ne sais plus où le mettre. Quand on passait l'offrande, il mettait 5 piastres. Cet homme-là, il est malade. Ses enfants, ils servaient le Seigneur, ils ne servent plus le Seigneur. Sa petite fille, elle avait de la misère à l'école, elle a encore plus de misère qu'avant. Ce n'est pas moi qui lui donne ça. C'est pas rien de ça. C'est juste que si le monde savait comment honorer Dieu, juste le faire avec amour. Fais ce que tu peux, mais fallait avec amour. Amen. Puis sois content puis reconnaissant que Dieu il t'aime puis toutes ces choses-là. Comment ça rouvre des portes à la guérison? On va aller dans une écriture dans Matthieu 6. Vous savez, j'aime apprécier tout le conseil de Dieu. All the counsel of God. Tous les oracles de Dieu, toutes les choses de Dieu. Amen. Il y a des gens qui, j'ai été critiqué, il y a des gens qui ont dit tout, tu parles rien que de l'argent, c'est ci, puis c'est ça, puis m'ont dit quelque chose. Je ne négligerai pas une chose parce que des gens me critiqueraient. Je prêche la parole de Dieu, puis si ça, ça fait partie de la parole, ça fait partie de la prêche aussi. Amen. Mais je ne suis pas toujours en train de prêcher ça. Amen. Voyez-vous, dans Matthieu 6, versets 19 et 20, il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Ça, ça ne veut pas dire... Il y en a, là, encore une fois, ils partent en peur avec ça. Puis là, ils font une doctrine. « Hey, c'est pas de Dieu, là, se ramasser de l'argent, là, puis avoir des biens, là. Il faut que tu sois pauvre puis humble. » C'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Dieu, il n'y a rien contre on soit intelligent. Amen. Puis Dieu, il sait que quand même qu'on a des biens, il y a une différence entre avoir des biens ou que les biens y tombent. Si c'est les biens qui te possèdent, ça veut dire que Dieu ne peut pas rien faire avec toi. Ça veut dire que, je vais l'expliquer autrement, supposons que tu as un beau manteau de fourrure. Tu peux posséder un manteau de fourrure, mais si c'est le manteau de fourrure qui te possède, ça veut dire que tu peux arriver à un moment donné, puis Dieu dit, Dieu veut juste savoir si tu es attaché au bien de la terre. Dit, prends ton manteau, donne-le. Hey! Wow! C'est mon manteau! Alors, ça veut dire que c'est le manteau qui te possède. Moi, Pastorial et moi, on a travaillé là-dessus quand on était des nouveaux chrétiens énormément. On avait un set de salons qu'on aimait, v'là, en 88, fait que ça fait 25, 26 ans de ça, on avait payé 2 000 $ pour notre set de salon. Il était beau, inutile de vous dire, il y avait toutes les tables, les ci, les ça, c'était quelque chose de côte à queue. on l'aimait. À un moment donné, Dieu lui a dit, donne-le. J'ai dit à mon mari, Dieu lui a dit de le donner. Ben, il dit, donne-le. J'ai appelé la personne, c'est un pasteur. J'ai dit, pasteur, on est allé chez vous, vous n'aviez pas de set de salon. Dieu vient nous dire de nous le donner, de vous le donner. Venez le chercher, il dit, j'arrive. Et puis, il est venu le chercher. Non, moi, si je vois que ça m'attache, ça disparaît. Amen. Et savez-vous, et le monde m'a dit, ben là, tu n'as plus rien, c'est tout le contraire. Quand Dieu voit que les choses ne sont pas attachées, il va t'en donner. Amen. Anyway. Fait que je voulais juste qu'on comprenne ici ce que ça veut dire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ce qu'ils veulent dire pareil par ça, c'est que, voyez-vous, le monde de la mafia, les pourfeurs de drogue, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'amassent, puis s'amassent, puis s'amassent. C'est juste du moi, puis ils n'accumulent. Tout ce que Dieu dit, c'est pensez pas juste à vous en accumulant. Comprenez-vous? C'est simple, hein? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Le monde, quand ils disent la teigne et la rouille, ils pensent que c'est parce que tes scènes noires vont commencer à rouiller. Là, t'sais, là? Et puis, je vais vous dire ce que la teigne est après. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu veut juste savoir où est ton cœur. Le mot teigne ici, on va aller voir ce que ça veut dire. Le mot teigne, ça veut dire de la gale, la peste, la maladie. Alors, quand c'est marqué ici, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la maladie et la rouille détruisent et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de rouille, puis il n'y a pas de voleurs. Amen. C'est toutes des choses différentes. On va aller à Lévitique 13, l'Ancien Testament, Lévitique 13. Et on va lire au verset 29. Dieu, il parle à Moïse, puis il dit, « Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur, c'est la teigne. C'est la lèpre de la tête puis de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poils noirs, il enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le 7e jour, et si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poils jaunâtres, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où est la teigne. Et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la teigne le 7e jour, et si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et tout sera correct. Il faut comprendre la parole de Dieu. Ce que Dieu démontre, c'est que quand tu n'honores pas Dieu, puis quand tu n'as pas un respect pour qu'est-ce que Dieu fait pour toi, et que c'est trop difficile, puis même que tu ne le fais pas du tout, puis tu le fais à reculons, puis on comprend les difficultés financières, comprenez-vous? Mais malgré cela, dans les difficultés financières, quand on veut s'en sortir, on met la parole de Dieu à l'épreuve. Amen. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Dieu dit, faites pas juste vous amasser pour vous. Parce que quand une personne fait ça, elle est pareille comme le pocheur de drogue. C'est, moi, je fais ça, lui, il fait les choses mal pour s'en ramasser. Toi, tu profites des bonnes choses que Dieu fait dans ta vie, mais pour t'en ramasser aussi. Fait que d'un sens, c'est, tout est centré comme ça. Puis Dieu dit, je peux-tu avoir une liberté aussi là-dedans? Parce que j'aimerais rejoindre ton voisin. J'aimerais rejoindre jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. J'aimerais pouvoir faire des choses. J'aimerais être une bénédiction pour cette personne-là au travers de toi. Combien de vous savez que Dieu ne peut pas faire une épicerie à ma voisine? Dieu ne descendra pas aller au métro acheter une épicerie, aller porter ça chez la voisine. Mais Dieu a besoin d'une personne qui va s'ouvrir et qui va dire, au lieu d'acheter deux poulets cette semaine, on va en acheter un et on va donner à quelqu'un. Amen. Alors, si Dieu peut travailler au travers de toi, si là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, il sait où est ton cœur, il sait qu'il peut travailler au travers de toi, faites-vous-en pas. Quand tu sais que tu peux travailler au travers de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu y en donnes affaire, hein? Si Dieu il sait qu'il peut travailler au travers de quelqu'un, puis la personne va agir, moi, vous dire de quoi il n'a pas fini de y en mettre dans les mains. Amen. Mais quand il dit, ne vous faites pas juste comme le monde qui se ramasse des trésors juste pour eux-mêmes, parce qu'il dit vraiment, ils ramassent ça sur la terre, là où il y a la maladie, la plaie, la teigne, la rouille, qui détruit, et les voleurs qui percent puis qui dérobent. Amen. Mais il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ça veut dire, oubliez pas de faire des choses aussi en connexion avec Dieu. Dieu, il s'en rappelle. La parole de Dieu nous dit, je n'ai pas le temps d'aller dans toutes les Écritures, mais ça dit qu'un a planté, l'autre arrose, puis c'est Dieu qui fait croître. On sait très bien que quand même tu dis, c'est moi qui ai fait mon jardin. Oui, c'est toi qui as fait ton jardin. Tu l'as travaillé, tu l'as planté, mais c'est qui a fait croître? C'est pas toi qui as tiré ses racines par en bas, puis après ça, puis sort. C'est Dieu qui fait croître. Alors, quand on donne à Dieu, bien Dieu va faire croître. Amen. On vient de semer dans le jardin de Dieu. Moi, je me souviens même une histoire que mon frère Fernand m'avait contée une fois. Il avait été prié pour une madame qui avait des grands besoins financiers, était découragée. Et puis, mon frère Fernand, il croyait tellement dans la parole de Dieu qu'il dit « semer et récolter ». Il savait qu'elle ne pouvait pas rien récolter. C'est une femme qui avait jamais, mais jamais donné de sa vie. Mais il connaissait assez Dieu qui fait croître qu'il s'est en allé à côté et il a dit « attends un peu ». Et il dit, je ne peux pas aller dans ton jardin, tu n'en as pas. Fait qu'il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le mien. Moi, j'en ai un au ciel. Amen. Fait qu'il dit, ce que je vais faire, je vais prier pour toi, mais d'après ma récolte à moi. Fait que je vais demander à Dieu qu'il prenne une partie de mon jardin. De la même façon que des fois les gens font, prennent une partie de leur jardin puis n'en donnent aux autres. Bien, ça, c'est vraiment agir par la foi. Amen. Fait qu'il dit, Père éternel, j'ai beaucoup de choses de semer dans le royaume de Dieu. Puis en quelque part, il y a une partie de mon jardin que tu peux aller présentement prendre la récolte puis la donner à cette femme-là. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Et la femme a eu ses besoins rencontrés. Amen. Ça, c'est vraiment croire que quand tu sommes pour Dieu, il y a vraiment une récolte qui est de l'autre côté. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. On va aller à Jacques 5. Quand on est venu au Seigneur, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 ans, tous les enseignements qu'on a entendus, c'était seulement ceux de mon frère Fernand. Amen. Et vraiment, après 4 ans, parce que c'est lui qui était le pasteur à Drummondville, mais vraiment, pendant 4 ans, j'ai juste entendu ses enseignements. Puis après ça, quand on est arrivé à Réma, les gens, ils ont dit, ça fait combien d'années que vous connaissez Brother Hagin? J'ai dit, zéro. J'ai même jamais entendu un de ses enseignements. Ils ont dit, mais comment vous avez fait pour être ici? Parce que j'ai entendu les enseignements de mon frère. Et puis quand on était là-bas dans les 2 ans, jamais je n'ai eu à défaire un enseignement puis dire, ça, c'était pas correct ce qu'il m'avait enseigné d'après ce que j'entends ici. Jamais. C'était tout simplement confirmation par-dessus confirmation avec, en plus, amené d'une façon des fois différente, avec un atout de plus pour qu'on aille en chercher encore plus. Amen. Voyez-vous, dans Jacques 5, verset 1, encore là, des fois, le monde prend ça littéralement, ça dit « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez. » Imaginez-vous qu'il y en a qui prêchent ça aux gens et disent « Faut que vous soyez pauvres, humbles. » Amen. Il dit « Pleurez, gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, puis le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs. » Ça ne sera pas l'autre bord, c'est ici. « Comme un feu. » Pourquoi? Pourquoi c'est ça pour eux autres? Il dit, « Parce que vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Il dit, « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Vous les avez frustrés. » Mais le salaire à eux, ils crient. Puis les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. « Vous avez vécu sur la terre dans la volupté, puis les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Et vous avez condamné puis tué le juste qui ne vous a pas résisté. » Encore une fois, je voulais juste qu'on voit ici, là, parce qu'il y en a qui prennent ça littéralement. Non, ça, c'est les riches qui ont vraiment frustré, dans un sens, le juste. Amen. Quand un homme rentre ici et dit « J'ai fait assez d'argent cette semaine que je ne sais même pas où la mettre », et puis qu'il voit tous les besoins dans l'Église, dans ces années-là, pasteur Réal et moi n'avaient même pas de salaire. On vivait avec sa petite pension militaire et par mon beau-frère aux États-Unis qui nous envoyait 500 $ US par mois et puis qui était dans ce temps-là en canadien 740. Merci Seigneur, l'échange était merveilleux pour nous autres. Puis c'est comme ça qu'on venait à bout de joindre les deux bouts. Puis là, tu le vois rentrer, venir recevoir la parole de Dieu, s'asseoir, se vanter qu'il y a tellement d'argent qu'il ne sait pas quoi faire avec puis il ne donne rien. Oh! Oh, je ne suis pas surprise de tout ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui. OK? Mais voyez-vous, c'est ça que ça veut dire. Est-ce que Dieu a besoin des riches? Oh, que oui! Vous savez, quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, ça dit que Joseph d'Arimathée est parti. C'est un riche. Puis il est arrivé, puis il a demandé la permission de pouvoir acheter un sépulcre neuf, puis de pouvoir faire embaumer Jésus, puis prendre soin du corps de Christ. Amen. Et puis, ils l'ont descendu de la croix, et puis il a donné ce qu'il y avait de meilleur. Oui, Dieu, il a besoin des gens talentueux, il a besoin des riches, il a besoin des pauvres, il a besoin de tout le monde, parce qu'en quelque part, on a tout quelque chose à donner au service de Dieu. Amen. Alors, je voulais qu'on voit dans Jacques qu'il a dit... Vos chairs, amen, je vais y retourner. Il a dit, la rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs. Voyez-vous, la maladie peut venir avec des gens qui sont égoïstes au point de vue de l'argent, puis qui sont même séraphins. Comprenez, non? La maladie peut venir. Mais est-ce que la guérison peut venir aussi? Oui, parce qu'on l'a vu tantôt dans Malachie, quand il parle, honorez-moi avec vos offrandes, avec vos dîmes, honorez-moi. Puis la parole de Dieu nous dit, et la guérison sera sous ses ailes. J'ai vu des gens recevoir la guérison, justement, parce que c'était des gens qui honoraient Dieu. Comme je vous dis, après tant d'années de servir le Seigneur, j'ai vu des gens être pris soin juste parce que c'était des gens qui honoraient Dieu. Et nous-mêmes, on peut se tenir là-dessus. C'est pas juste dire, oh, Dieu va le faire. Non, c'est pour que nous, toutes les promesses de la parole de Dieu, il faut qu'ils deviennent dans notre bouche oui, puis amen. C'est ça qu'on a vu hier soir. Il faut que la promesse... Alors, c'est à nous d'aller devant Dieu puis dire, Seigneur, je n'ai jamais eu honte, puis tu sais que tu peux fouiller dans mon portefeuille quand tu veux, Seigneur. Puis tu sais combien j'aime à t'honorer, Seigneur. Et tu dis dans ta parole. Parce que, voyez-vous, les choses qu'on a de la parole de Dieu, il faut qu'on y croit, puis il faut qu'on lui rappelle. Et tu dis, Seigneur, dans ta parole, que la guérison peut s'élever. Seigneur, je crois que la guérison s'élève dans ma vie, Seigneur. Et Père éternel, puis tu dis le contraire aussi, que si une personne fait complètement le contraire, Seigneur, c'est pas surprenant que la maladie s'éloigne. Alors, Père éternel, la maladie n'a pas le droit de rester dans mon corps, parce que tu le sais, Seigneur, que moi, je n'amasse pas pour moi-même, puis je ne vais pas frustrer les autres, et que je suis à ton service, Seigneur, et que je t'honore. Alors, Seigneur, la teigne, la rouille, le voleur, il sera pas dans ma vie, Seigneur. Parce que tu sais qu'est-ce que je fais avec ce que tu me donnes, Seigneur. Alors, tu peux revendiquer tes droits. Voyez-vous, la prière, c'est ça en réalité. La prière, c'est pas une répétition. Non, la prière, c'est pas ça. La prière, c'est pas non plus. Ça, c'est de la méditation sur sa parole. On peut prendre la parole puis la méditer. On peut y penser. OK, ça, c'est bon. Oui, Seigneur. Méditer, vraiment, c'est quoi? C'est quand on regarde, supposons, à la femme avec les soutiens, on est capable de l'imaginer, toute maigre, pauvre, la foule. On médite, on voit la parole de Dieu, puis elle devient vivante dans notre cœur. Amen. On médite les choses. On peut voir les lépreux qui criaient de loin, qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir de l'air, et puis comment ils pouvaient souffrir, puis crier pitié. On médite la parole de Dieu. Amen. On y pense. Mais voyez-vous, la prière, c'est revendiquer ses droits. La parole de Dieu dit que Dieu cherche par toute la terre quelqu'un qui va se tenir à la brèche. À la brèche, ça veut dire, hey, comme un avocat. Wow! Père éternel, tu dis dans ta parole telle chose. Tu dis telle chose. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas être fantasme devant Dieu. C'est pas ça l'affaire. C'est de rappeler à Dieu qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça lui fait? C'est enfin, il y a quelqu'un qui connaît qu'est-ce que je dis. Enfin, il y a quelqu'un qui reconnaît que qu'est-ce que je dis, je peux le faire. Au lieu de me critiquer à tous les cinq minutes. Amen. C'est vraiment ça que ça veut dire. Revendiquer les droits. Père éternel, tu le dis dans ta parole. Dieu, il voit qu'on est intéressé à sa parole. On est intéressé à ce qu'il dit. Tu sais, si toi, tes enfants, tu lui dis des choses, tu lui dis, papa, il va être là, il va y aller avec toi au magasin, il va y aller avec toi, je vais aller te conduire, je vais aller te rechercher, et puis ça va être correct, après souper, on y ira. Puis après souper, ton enfant, il sort dehors, puis il dit, en tout cas, je te dis, j'aimerais ça aller au magasin. Ben oui, mais je te l'ai dit tantôt que j'irais. Ouais, mais qu'est-ce que tu dis? C'est pas important, papa. Ben voyons donc, qu'est-ce que c'est pas important? Mais tandis que si ton enfant revient, il dit, hey, papa, t'as dit que tu viendrais. Ben oui, je l'ai dit, tu crois dans ma parole, ben garde, je vais le faire. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si on se promène et on dit, oh, je ne sais pas pourquoi ça fait que ça m'arrive, puis Dieu, il dit, ben voyons donc, laisse-toi pas assaillir comme ça par la maladie, revendique tes droits, garde dans ma parole, je te montre plein d'avenues qui peuvent t'emmener à la guérison. Je te démontre là que quand tu m'honores, puis quand tu me respectes, puis tu m'honores comme un père, puis tu m'honores comme un maître, et puis que tu n'as pas peur de reconnaître ce que je fais dans ta vie, puis que tu m'honores, regarde, tu revendiques tes droits, j'ai écrit, j'ai pris la peine de moindre des hommes de Dieu qui te diraient comment faire. Puis toi, tu te promènes comme si j'aurais rien écrit. Tu te promènes comme si j'existe pas, comme si ma parole n'est pas importante. Amen. C'est ça. Il y a plusieurs personnes qui proclament des gens de foi, puis disent en anglais, ils disent, vous autres, vous êtes des « say it and then claim it ». And, isn't it, say it and then claim it, ça veut dire, tu le dis, puis tu faut le réclamer. Vous êtes des dis-les, réclame-les. C'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Que ma parole soit dans ta bouche. rappeler à ma mémoire les choses que je vous ai dit. Jésus a dit, vous avez pas parce que vous demandez pas. Amen. Mais on demande pas juste pour satisfaire nos besoins. Si on réclame la santé, c'est pour pouvoir mieux le servir. J'ai même vu une personne qui a eu de la misère à avoir sa guérison parce que la raison qu'elle voulait avoir sa guérison, c'est juste pour continuer à faire ce qu'elle voudrait faire. Ça, c'est un autre sujet. Pourquoi on veut voir Dieu, il met sa main sur nous pour nous guérir. Pourquoi? Pour mieux le servir. Pour mieux l'honorer. C'est lui qui fait toutes les choses. C'est pour mieux l'honorer. C'est pour mieux le servir. C'est pour mieux le reconnaître. Puis c'est pour mieux le faire connaître aussi. Amen. Il faut toujours enlever la mentalité de l'égoïste. Mais moi, en tout cas, là, je vais être guéri, puis mais que je sois guéri, moi, je fais le tour du monde, puis je pars avec mon pack-sac, puis moi, je vais faire ce que je veux. Mais écoute, oui, Dieu va guérir pareil parce qu'il est tellement généreux. Il est tellement généreux. Mais normalement, quand Dieu fait quelque chose pour nous, il s'attend aussi qu'on va le reconnaître. Quand il a guéri les 10 lépreux, il y en a un qui est revenu pour rendre gloire à Dieu. Il dit, où sont les 9 autres? Ça doit être parce qu'il s'attend qu'on va reconnaître. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, on ne tombera pas là-dessus, parce que là, je vais partir sur un autre. Ce que je voulais qu'on voit ce matin, c'est que la guérison, Dieu, il nous démontre dans sa parole un autre avenue, puis ça finit avec la guérison. Amen. Et c'est au point de vue des finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un autre avenue que moi, je peux prendre pour amener la guérison. Comprenez-vous? Je ne le fais pas pour être guéri. Ouh, encore là, il y en a qui vont partir sur un autre sens. Moi, je donne à Dieu, puis il va me guérir. Non, ben non, c'est pas ça. C'est quand tu le fais, tu peux te revirer bord, tu peux dire, tu sais, Seigneur, que je t'aime. Puis tu sais, Seigneur, que je t'honore avec mes biens, puis je n'ai jamais eu peur de cela. Mais Père éternel, tu dis dans ta parole, que si on t'honore avec nos biens, avec les prémices, que tu vas menacer celui qui dévore et que la guérison va même germer. Seigneur, je me sers de ta parole pour te rappeler que la guérison doit germer dans ma vie. Comprenez-vous, il y a une différence entre les deux. Amen. Gloire à Dieu. On va juste rester sur celle-là ce matin. On va se lever debout. Amen. Alléluia. Si vous honorez Dieu, faites-le pour l'honorer. Amen. Et si plus tard la maladie vient, c'est un autre avenue par lequel on peut réclamer. On peut dire, Père éternel, ta parole amène la guérison parce qu'elle agit comme un remède. Père éternel, notre Seigneur Jésus-Christ a souffert pour pas que je souffre. Puis ça, c'est une autre raison. Père éternel, en plus, Seigneur, je crois que la guérison germe parce que je fais ce que ta parole dit. Voyez-vous, c'est comme un autre. Satan, dit, non, 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 tu ne mérites pas. Tu y en amènes un autre. Non, 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 tu y en amènes un autre. Non, 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 tu y en amènes un autre. Comprenez-vous? Parce que bien des fois, le combat, il est mental. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. On va le louer s'il y en a qui ont besoin de guérison. On va prier ou prier pour un autre. Et les requêtes aussi ce matin. Amen. Alléluia. On veut toujours donner l'opportunité pour la guérison. Alléluia.